Le retour de Turine au Dorlomine. Enfin, exténué par l'allure et la durée du voyage, car il avait marché plus de 40 lieues sans s'arrêter, Turine parvint lors des premières glaces de l'hiver aux fontaines de Livrine, là où auparavant il avait trouvé la guérison. Mais il n'y avait plus là qu'un bourbier gelé, et il ne pouvait plus y boire. De là, il franchit l'école qui menait au Dorlomine. Une âpre neige venait du nord et les chemins étaient glacés et dangereux. Bien que 23 ans se fussent écoulés depuis qu'il avait foulé ce chemin, il le portait gravé en son cœur, tant aigu avait été son chagrin de quitter Morwen. Et c'est ainsi qu'il regagna le pays de son enfance. Et il trouva une terre morne et désolée, et une population clairsemée,
et de mœurs grossières,
et qui s'exprimait dans le rude parler des Orientais, et l'ancienne langue était devenue celle des esclaves ou des ennemis. Aussi prudemment allait Turine, dissimulé sous son capuchon et dans le silence, et voilà qu'il atteignit la maison qu'il cherchait. Mais elle se dressait vide et sombre, et nul signe de vie alentour, car Morwen était parti, et Broda, le nouvel arrivant, celui-là qui avait épousé de force Aérine, parente de Hurin, avait pillé son logis et pris tout ce qui lui restait, et ses biens et ses gens. La maison de Broda s'élevait toute proche de l'ancienne demeure de Hurin, et là se rendit Turine, épuisé par ses errances et son chagrin, et il quémanda l'hospitalité, laquelle lui fut accordée. Car sous l'influence d'Aérine, on tenait encore en honneur quelques-unes des pratiques charitables d'autrefois. On lui donna un siège près du feu parmi les serviteurs et quelques vagabonds quasiment aussi misérables et fourbus que lui, et il demanda des nouvelles du pays. À cela, la compagnie fit silence, et certains s'écartèrent, regardant l'étranger de travers. Mais un vieux vagabond en béquille dit
« S'il te plaît de parler l'ancienne langue, mon maître, parle donc plus bas et ne pose pas de questions. Crains qu'on te rosse comme un vilain ou qu'on te pende comme espion. Car à te voir, il se pourrait bien que tu sois l'un et l'autre. Ce qui revient à dire... »
Et il baissa la voix en s'approchant de Turine et lui murmura à l'oreille
« L'un de ces gens de bien qui vinrent avec Ador au temps doré, lorsque les têtes ne portaient pas poil de loup. Certains ici sont de ceux-là, mais réduits aujourd'hui à l'état de mendiants ou d'esclaves. Et n'était-ce pour la dame Aérine, on ne leur baillerait ni feu ni potage. D'où es-tu, et quelles nouvelles cherches-tu ?
Il y avait une dame nommée Morwen, répondit Turine. Et autant jadis, je vivais dans sa maison. Et en ce lieu, après avoir erré au loin, je suis revenu chercher ma bienvenue. Mais il n'y a ni feu ni âme qui vivent là-bas.
Et cela depuis une année entière et plus, répliqua le vieillard. Mais peu nourris étaient le feu et les gens de la maison depuis la terrible guerre, car la dame était de l'ancien sang, comme assurément tu le sais, la veuve de notre seigneur Hurin, fils de Galdor. Il n'osait la toucher, car il la craignait. Et elle était fière et belle comme une reine avant que le chagrin ne la ravageât. Femme sorcière, l'appelait-on, et on l'évitait. Femme sorcière, l'équivalent dans le nouveau langage d'amis des elfes. Et cependant, ils la dépouillèrent de tout. Bien souvent, elle et sa fille auraient connu la fin si ce n'avait été pour la dame Aérine. Elle les secourait en secret, et maintes fois, dit-on, elle fut battue pour prix de ses bienfaits par cette brute de Broda, son mari par obligation.
« Et depuis une année entière ou plus, dis-tu ? » demanda Turine. « Sont-elles mortes ou réduites en esclavage ? Les orques se seraient-ils emparés d'elles ?»«
On ne sait au juste, » dit le vieillard. « Mais elle est partie avec sa fille, et ce Broda a fait main basse sur ce qu'elle avait. » Et il a tout rapiné, pas un chien qui ne lui reste. Et de ces quelques gens, il a fait des esclaves, hors ceux qui s'en sont allés mendier comme moi. Je l'ai servi de longues années, et l'illustre maître auparavant. On me nomme Sador un pied. Une maudite hache dans les bois, il y a longtemps, sinon je reposerai aujourd'hui sous le grand tertre. Je me souviens bien du jour où l'on fit partir le garçon de Hurin et comme il pleurait. Et après son départ, ce fut elle qui pleura. On a dit qu'il s'en fut au royaume caché. »
Là-dessus, le vieillard se tut, et il dévisagea Turin avec hésitation.
« Je suis vieux et je radote, » dit-il. « Ne prête pas attention à moi, car si c'est un plaisir de parler l'ancienne langue avec qui la parle noblement comme par le passé, les temps sont mauvais et il faut être prudent. Ils n'ont pas tous le cœur noble, ceux qui parlent la langue noble. »
« C'est vrai, » dit Turin, « mon cœur à moi est sombre. Mais si tu redoutes que je sois un espion du nord ou de l'est, alors tu n'es guère plus sage qu'autrefois. S'adore la badale. » Le vieillard le contempla avec stupeur. Puis, tremblant, il parla.
« Viens dehors. Il y fait plus froid, mais on n'est plus en sécurité. Tu parles fort et moi je parle trop pour la salle de festin d'un orientais. »
Lorsqu'ils furent dans la cour, il saisit le manteau de Turin.
« Tu as vécu jadis dans cette maison, dis-tu ? Seigneur Turin, fils de Hurin, pourquoi es-tu revenu ? Enfin s'ouvre mes yeux et mes oreilles. Tu as la voix de ton père, mais le jeune Turin était le seul à me donner ce nom, la Badal. Sans mauvaise intention, nous étions de joyeux compagnons tous les deux en ces jours d'autrefois. Que cherche-t-il ici à présent ? Nous ne sommes plus que quelques-uns, et vieux et sans armes. Plus heureux sont ceux du grand tertre.
Je ne suis pas venu ici songeant à la bataille, dit Turin, bien que tes paroles aient éveillé ces pensées dans mon cœur, la Badal. Mais pour cela, il faut attendre. Je suis venu chercher la dame Morwen et Nienor. Que peux-tu m'apprendre, et vite ?
Pas grand-chose, seigneur, dit Sador. Elles s'enfuirent secrètement. On a chuchoté parmi nous que le seigneur Turin les avait mandées auprès de lui, car nous ne doutions point qu'avec les années, il fût devenu un homme illustre, un roi ou un seigneur dans quelque contrée du sud. Mais il semble que non.
« Non, en effet, » répondit Turin. « J'ai été seigneur dans un pays du sud, mais je suis désormais un vagabond. Or, je ne les ai point mandés auprès de moi. »
« Alors, je ne sais que te dire, » répliqua Sador. « Mais la dame Aerin, elle, saura, j'en suis sûr. Elle était dans la confidence de ta mère.
« Comment puis-je l'approcher ?»«
Cela, je l'ignore. Il lui en coûtera gros si on l'attrape chuchotant entre deux portes avec un misérable du peuple opprimé, quand bien même on parviendrait par un message à la faire venir. Et à peine un mendiant de ton espèce avancerait-il vers la haute table, que les orientés se saisiraient de lui et le battraient, sinon pire. »
Lors, de colère, Turin s'écria, « Il ne me serait pas permis à moi de traverser la salle de Broda ? Et ils oseraient lever la main sur moi ?
Viens donc et tu verras. »
Et il pénétra dans la salle du festin. Il rejeta son capuchon. Et repoussant tous ceux qui se trouvaient sur son passage, il marcha à grands pas jusqu'à la table où siégeaient le maître de maison et sa femme et d'autres seigneurs des orientais. Alors, certains lui coururent sus, mais il les précipita au sol et clama «
Personne n'est-il maître ici ? Où est-ce une tanière d'orques ? Où est le maître de Séan ?»
Alors Broda se leva en grand courroux et dit
« C'est moi qui gouverne cette maison. »
Mais avant même qu'il pût prononcer un mot de plus, Turin s'écria
« Alors tu n'as pas appris la courtoisie qui régnait dans ce pays avant ta venue. Est-ce l'usage des hommes à présent de laisser des laquais malmener les parents de leurs femmes ? Tel je suis, et j'ai à entretenir la dame Aerin. Viendrai-je librement, ou viendrai-je en me frayant un chemin à ma manière ?»
« Viens !» dit Broda l'air renfrogné.
Et Aerin devint toute pâle. Alors Turin s'avança jusqu'à la haute table, et il se tint là debout et s'inclina. « Je te prie de m'excuser, » dit-il, « dame Aerin, d'avoir fait irruption ainsi devant toi. Mais ma quête ne souffre pas de répit et m'amène de loin. Je cherche Morwen, dame du Dol Lomine, et Nienor, sa fille, mais sa maison est vide. » Et de fond en comble dévasté. Que peux-tu m'apprendre ?
Rien,
dit Aerin pleine d'effroi, car Broda la surveillait de près.
Rien, sinon qu'elle est partie.
Voilà ce que je ne puis croire, dit Turin. Alors Broda bondit en avant et une rage avinée l'empourprait.
Suffit, cria-t-il. Ma femme se verra-t-elle contredite sous mes yeux, et par un mendiant qui parle la langue des serfs ?
il n'y a pas de dame du Dorlomine. Quant à Morwen, elle était de la gent esclave, et comme une esclave, elle a pris la fuite. Et hâte-toi de faire de même et sans plus attendre, ou je te ferai pendre à un arbre. »
Turin se jeta sur lui en tirant sa noire épée, et saisit Broda par les cheveux et lui renversa la tête.
« Que personne ne bouge, » dit-il, « ou cette tête quittera ses épaules. Dame Aerin, je te prierai une fois encore de me pardonner, car j'ai cru que cette brute ne t'avait jamais fait que du mal. Mais parle maintenant et ne te dérobe plus à ma demande. Ne suis-je pas Turin, seigneur du Dorlomine? Dois-je te donner ordre de parler ?»«
Ordonne-moi de parler, » dit-elle.
« Qui a pillé la maison de Morwen ?»«
Broda, »
répondit-elle.
« Quand a-t-elle fui ? Et où ?»«
Voilà plus d'une année et 3 mois, »
dit Aerin.
« Messire Broda et d'autres parmi les nouveaux arrivants de l'Est ici présents l'opprimèrent durement. Depuis longtemps, elle était conviée à se rendre au royaume caché, et enfin elle se décida. Car toutes les contrées entre les deux pays se trouvèrent, pour un temps, libres de l'oppression grâce aux exploits du noir épée du pays du Sud, dit-on. Mais ce n'est plus le cas à présent. Elle espérait retrouver son fils l'attendant là-bas, mais si tu es celui-là même, alors je crains que tous ses plans aient mal tourné. »
Turin se prit à rire amèrement.
« Mal tourné ! Mal tourné ! »
s'écria-t-il.
« Oui, comme toujours, aussi mal que Morgoth lui-même. »
Et soudain il fut secoué d'un noir courroux, car ses yeux se dessillèrent et les derniers raies du sortilège de Glaurung se rompirent. Et il comprit enfin les mensonges dont le dragon l'avait abreuvé.
« Aurais-je été par duperie et traîtrise, amené jusqu'ici pour y trouver la mort dans le déshonneur, moi qui pouvais au moins achever mon existence vaillamment devant les portes de Nargothrond ?»
Et du cœur de la nuit qui environnait la salle, il crut entendre la plainte de Finduilas.
« Mais je ne serai pas le premier à périr ici !» s'écria-t-il. Et il saisit Broda,
ému par une colère et une angoisse épouvantables, le souleva de terre et le secoua en l'air comme un chien.
« Morwen de la gent esclave, dis-tu ? Toi, fils de lâche, voleur, esclave des esclaves !»
Et il jeta Broda tête la première au travers de sa propre table, au visage d'un orientais qui s'était levé pour l'attaquer. Et dans sa chute, Broda se rompit le cou, et Turin bondit sur sa lancée et en tua 3 autres qui se rencognaient terrorisés, car ils étaient pris sans armes. Alors le tumulte fut grand dans la salle. Les orientais assis là se seraient rués sur Turin, mais en ces lieux se trouvaient bien d'autres gens, les anciens habitants du Dorlomine qui avaient longtemps servi avec soumission. Mais voilà qu'ils se soulevaient dans un cri de révolte. En un instant, la salle du festin fut un champ de bataille. Et bien que les esclaves n'eussent que des tranchoirs et autres ustensiles de ce genre en guise de dagues et d'épées, il y eut bientôt des morts dans les 2 camps, avant même que Turin ne sautât parmi eux et ne tuât le dernier des orientais qui restait dans la salle. Alors il reprit souffle, appuyé contre une colonne, et le feu de sa rage se fit cendre. Mais le vieux Sador se traîna à ses pieds et lui étreignit les genoux, car il était blessé à mort.
« 3 fois 7 ans et plus, ce fut long à attendre pour voir 7 heures, »
dit-il.
« Mais maintenant, pars, pars, seigneur, pars et ne reviens pas, sinon avec des forces plus puissantes. Ils vont ameuter tout le pays contre toi, car ils sont nombreux à s'être échappés de la grande salle. Pars, ou ici même sera ta fin. Adieu. »
Et il s'affaissa. Et expira.
Il parle avec la vérité de la mort,
dit Aerin.
Tu as appris ce que tu voulais savoir. À présent, pars et fais vite. Mais d'abord, va auprès de Morwen et rassure-la. Sinon, j'aurai peine à pardonner les ravages que tu as perpétrés en ces lieux. Car si mauvaise que fut ma vie, c'est la mort que tu m'as apportée par ta violence. Les nouveaux arrivants tireront vengeance de cette nuit sur tous ceux qui se trouvaient ici. Inconsidérés sont tes actes, fils de Hurin, comme si tu n'étais encore que l'enfant que j'ai connu. »
Et craintive de cœur es-tu, Aerin, fille d'Indor, tout comme tu étais lorsque je t'appelais tante et qu'un chien un peu hargneux t'effrayait, dit Turin. Tu t'es faite pour un monde plus clément. Mais viens avec moi, je t'amènerai auprès de Morwen.
La neige gît sur la terre, mais elle gît plus épaisse encore sur ma tête, dit-elle. je mourrai aussi bien avec toi au fond des bois que de la main brutale des Orientais. Tu ne peux réparer ce que tu as fait, pars! Rester ne fera qu'aggraver les choses et dépouillera Morwen en vain. Pars, je t'en conjure! »
Alors Thorin s'inclina profondément devant elle et se détourna, et il quitta la salle de Broda. Et les rebelles qui en avaient la force le suivirent, et ils s'enfuirent dans les montagnes, car certains d'entre eux connaissaient bien la vie en pays sauvage, et ils furent reconnaissants à la neige qui tombait derrière eux, recouvrant leurs traces. Et ainsi, malgré la traque promptement lancée contre eux avec des hommes et des chiens en nombre, et des chevaux hennissants, ils s'échappèrent vers le sud, s'enfonçant dans les collines. C'est alors que, jetant un regard en arrière, ils virent une rouge clarté au loin dans la contrée qu'ils avaient fui.
« Ils ont mis le feu à la grande salle, » dit Thorin. « Pourquoi faire cela ?»«
Non pas ils, seigneur. Plutôt elles, je pense, » dit celui qui avait pour nom Asgon. Souvent un homme de guerre interprète faussement la patience et la douceur. Elle faisait beaucoup de bien aux nôtres, et cela lui coûtait cher. Son cœur n'était pas lâche, et la patience un jour s'épuise.
Quelques-uns des plus endurants, capables de braver les rigueurs de l'hiver, demeurèrent avec Thorin, et ils le conduisirent par des chemins détournés à un refuge de montagne, une grotte connue des seuls hors-la-loi et fugitifs, et quelques provisions étaient cachées là. Ils y patientèrent jusqu'à ce que la neige cessa, et alors ils munirent Thorin de nourriture et l'amenèrent à une passe peu fréquentée, par laquelle on gagnait le val du Sirion, où la neige n'avait pas fait son apparition. Et sur le chemin de la descente, ils se séparèrent.
« Adieu donc, seigneur du Dol Lomine, » dit Asgon. « Mais ne nous oublie pas, car nous serons à présent des hommes pour chasser. Et pour prix de ta venue, le peuple loup sera d'autant plus cruel. C'est pourquoi je te dis de partir et ne reviens point, sinon en force pour nous libérer. Adieu. »